Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, à Y voir clair autour du monde, nous faisons escale en Colombie. Alors, située au nord-ouest de l'Amérique du Sud, la Colombie compte environ 53 millions d'habitants. Notre invité, Camilo Andrés Santana, vient de Bogota, l'une des villes les plus congestionnées au monde, comme il m'a si bien dit. Alors, un simple déplacement peut y prendre 2 heures entre les transports bondés, les travaux, les trottoirs irréguliers et la foule. Circuler avec une déficience visuelle dans cette ville représente tout un défi.
Il faut savoir aussi que Camilo est né avec une microphthalmie, qui est une malformation congénitale très rare. Aveugle d'un œil depuis sa naissance, il a grandi avec une vision réduite dans l'autre avant de perdre complètement la vue à l'âge adulte. Mais sa déficience visuelle ne l'a pas empêché de poursuivre des études impressionnantes. Camilo a obtenu un bac, 2 maîtrises et 1 doctorat. Il a ensuite occupé un poste de directeur de projet qui l'a amené à travailler dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il y a environ 4 ans, Camilo a quitté la Colombie pour s'installer au Québec. Mais, comme plusieurs immigrants, malgré ses nombreux diplômes et son expérience professionnelle, il a dû reprendre des études et reconstruire sa carrière.
Alors, dans quelques instants, Camilo va nous raconter son parcours, Bianca, de son enfance en Colombie jusqu'à sa nouvelle vie au Québec. Je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et depuis quelques années, je cherche à mieux comprendre le quotidien des personnes qui ont des déficiences visuelles.
Et moi, Bianca Lucie, justement atteinte d'une déficience visuelle et également spécialiste en réadaptation en déficience visuelle.
Alors, bienvenue à Y voir clair autour du monde. Discuter avec Camilo dans quelques minutes. Bianca, peux-tu me dire ce que tes recherches ont révélé en lien avec le nombre de Colombiens qui vivent avec une déficience visuelle?
Oui, selon les données fournies par l'Institut national pour les aveugles de Colombie, il y a près de 2 millions de personnes qui seraient aveugles ou vivant avec une basse vision. C'est sûr que dans ces cas-là, il faut toujours relativiser là, qu'est-ce qu'on entend exactement par déficience visuelle, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont affectées.
Est-ce qu'ils ont des ressources, les gens, comme ici au Québec, disons?
Disons différents d'ici. Ouais. Il y en a tout de même. Là-bas, il y a l'Institut national pour les aveugles, l'INCI, qui va soutenir les écoles, les bibliothèques, les organismes, les employeurs, dans le but de favoriser l'accès à l'éducation, culture, technologie et travail. Donc, il y a des choses qui existent, mais je ne sais pas si on peut comparer au Québec et au Canada nécessairement.
Et probablement que les ressources ne sont pas accessibles partout en Colombie de la même façon.
Ouais. Bien, c'est sûr que, comme dans beaucoup de pays, c'est le cas, il y a une grosse différence entre les villes et les régions plus éloignées. Mm-hmm. Donc, les services vont être un peu plus accessibles dans les villes. Tandis que dans les régions, parfois, ça peut être plus difficile d'avoir un ophtalmologiste, d'avoir un diagnostic, les traitements. Mais quand même, tu sais, on parlait dans un épisode précédent de pays d'Afrique subsaharienne, c'est quand même plus accessible en Colombie que dans ces pays-là.
Il y a quand même, selon des données relayées par l'Institut national de santé, 45 % des municipalités colombiennes qui n'ont pas d'ophtalmologiste permanent. C'est quand même énorme.
À peu près, hein?
Tantôt, tu as parlé... En fait, depuis qu'on anime la série Balado, depuis 3 ans maintenant, on n'a jamais abordé ou parlé de cette maladie qui est la microphthalmie. C'est quoi, Bianca?
Bien, la microphthalmie, en fait, c'est quelque chose qui arrive durant le développement de l'œil, tu sais, à l'époque où l'enfant est dans le ventre de sa mère. Donc, on parle d'une malformation congénitale. Puis, ça peut être dû... ça peut être génétique, mais ça peut aussi est dû à des conditions difficiles dans la grossesse, par exemple une exposition à une toxine ou encore certaines maladies là, comme la rubéole. Mais ce qui est particulier avec cette condition-là, c'est que les personnes ne sont vraiment pas atteintes de la même façon. Tu sais, moi, j'ai eu, comme en tant que SRDV, des personnes qui avaient de la microphthalmie qui voyaient bien. Tout est relatif. Là. Il y avait une déficience visuelle puis il y avait des services de réadaptation, mais tu sais, qui avaient accès avec des gros caractères puis tout ça. Puis il y en a qui sont complètement cécités. Fait que c'est très, très variable. Il y en a qui ont une atteinte du champ. Ça veut dire c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bien voir sur les côtés ou devant. Puis okay. Il y en a que c'est l'acuité, donc la capacité à voir les détails ou à voir de loin. Fait que en ayant le nom de la maladie, on ne sait pas comment la personne, ça va être quoi son profil visuel.
Ah, okay.
Mais c'est ça. Fait que ça dépend.
Puis ça peut être héréditaire.
Oui, ça peut être héréditaire. Ah. Oui, c'est ça.
Okay.
Fait que c'est vraiment le développement de l'œil à l'époque, tu sais, où l'enfant est dans le ventre de sa mère,
okay.
Mais soit causé par gêne ou, c'est ça, certaines difficultés okay. durant la grossesse.
D'ailleurs, dans le cas de Camilo, sa maman et son frère vivent aussi avec cette condition-là. Alors, on s'entretient enfin avec Camilo Andrés Santana. Merci, Camilo, d'être avec nous aujourd'hui.
Ah, merci beaucoup pour m'accueillir. Merci beaucoup, vous êtes très gentil.
Ça nous fait plaisir. Mais avant de commencer, je précise à nos auditeurs que Bianca et vous connaissez déjà, hein, Camilo?
Oui. Pour moi, ce serait très difficile de vous voir, Bianca.
On ne sera pas capable de vous voir.
Depuis longtemps. Je m'excuse avec vos auditeurs, mais ça va être très difficile pour moi de faire une chose différente.
Bon, moi, je vais vous dire vous, OK, Camilo?
C'est bien si vous voulez me tutoyer. Pour moi, c'est correct.
Mais vous vous êtes connu dans quel contexte?
Je te laisse parler, Camilo.
Ah, désolé. On s'est rencontrés parce que une fois que j'ai eu mon permis de travail ici au Québec et mm-hmm. au Canada, j'ai demandé l'aide de l'Institut de Nazareth de Louis Braille.
Mm-hmm.
Et honnêtement, c'était un service génial. J'ai eu une réponse très, très, très rapide à mes demandes. Et ils m'ont assigné Bianca.
Ah, oh, ben, chanceux!
Oui, Camilo, ça a été mon... Parce que moi, je suis spécialiste en réadaptation des déficiences visuelles, comme on disait. Puis avant, j'étais surtout spécialisée avec les personnes qui avaient de la vision fonctionnelle. Et Camilo a été un de mes premiers clients assistés avec qui j'ai fait du braille puis de l'informatique en sonore. Oui.
Ah,
oh, ben...
Oui.
Ben, on va reparler du braille, d'ailleurs. Camilo, on l'a dit, vous êtes né avec une microphtalmie. Alors, expliquez-moi dans vos mots à vous et comment vous l'avez vécu? Parce que vous, c'est de naissance.
Oui, la mienne, c'est une... Bon, la microphtalmie, comme Bianca vient de dire, mm-hmm. c'est une condition qui arrive à la naissance.
Mm-hmm.
Et quand je suis né, ma mère, elle savait déjà que j'avais une condition spécifique parce qu'elle l'avait déjà. Et son père, lui, l'a eu.
Ah, OK.
Et sa sœur, qui c'était sa jumelle, elle aussi l'a eu. Okay. Les restes de la famille, parce que mes tantes et mes oncles sont beaucoup plus, ils n'ont pas eu la maladie. Donc, mm-hmm. c'est très rare. Ça a été hérité juste pour du côté de ma mère mm-hmm. et de sa sœur. Donc, ma mère, elle savait déjà que nous, moi et mon frère, et nous allions avoir la condition. Je ne vais pas la dire la maladie parce que je la trouve plutôt comme une condition.
Ah oui, OK.
Ma mère, quand nous sommes nés, elle a essayé de contacter des professionnels de la santé.
Mm-hmm.
Pardon. Des professionnels de la santé en Colombie. Et ils ont dit, écoutez, vos enfants, spécifiquement moi à ce moment-là, votre enfant, il ne voit pas. C'est ça la réponse. Il faut savoir, c'est les années 80, c'est en Colombie, donc la science n'était pas assez familiarisée avec ce type de conditions.
Mm-hmm.
Bon, un jour, ma mère est en train de... moi, j'étais enfant et ma mère, elle raconte qu'un jour, elle voyait que j'étais dans la lit, dans sa lit.
Mm-hmm.
Je commençais à chercher pour un petit rayon de soleil qui tombait sur la lit. Et quelqu'un qui était avec elle le disait, il essaye de prendre le rayon de soleil. Et ma mère, elle a dit, bon,
il voit.
S'il cherche pour le rayon, il boit.
Il voit, ouais.
Il boit. Donc, on a resté comme ça. J'ai grandi en sachant que j'avais moins de vision par rapport aux tailles des choses, par rapport au, surtout des tailles des choses et des choses qui sont éloignées.
OK. Dans le fond, Camilo...
À distance.
OK. Dans le fond, votre œil droit... il fonctionnait pas du tout, c'est ça?
Puis vous, non, il fonctionnait pas du tout.
Pas du tout.
Et jamais été, j'étais pas jamais conscient.
OK.
Jusqu'à ce que, je pense que j'étais comme dans l'école primaire et quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose avec un autre œil différent que le, comme me couvrir l'œil gauche. Ça et à ce moment-là, j'essayais de voir et j'ai dit, où diable, je vois quoi?
Donc,
c'est... Okay, à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voyais pas de ce côté-là.
OK. Fait qu'il y a juste un œil qui voyait, mais encore là, quelle oui. était la vision, le pourcentage de vision? C'est une vision parfaite?
C'était... non, c'était pas parfaite.
OK.
Mais pour la taille de, pour la taille d'œil, les médecins disaient vraiment que c'était incroyable la qualité de vision que j'avais à ce moment-là.
Un tout petit œil qui arrivait à voir pas si mal.
Oui, si mal. J'étais capable à ce moment-là. Par exemple, j'accompagnais ma mère pour aller faire des achats,
okay.
Magasiner. J'étais capable de moi-même aller jusqu'au magasin, acheter les choses, revenir, regarder les billets. Parce qu'à ce moment-là, bon, dans la plupart des pays, les billets ne sont pas accessibles. C'est comme les dollars américains.
Ouais.
Ce n'est pas accessible du tout. Donc, il faut les regarder.
Ah, OK.
Et en Colombie, c'est plus ou moins la même chose, juste avec des couleurs. Donc, avec les couleurs, j'étais capable de voir l'argent. J'ai aidé ma mère en plusieurs choses, de façon qu'elle a compris que j'avais une... très bon résidu visuel, comme elle l'appelait. Et donc, c'était ça. J'ai joué avec mes amis. Moi, j'ai joué le soccer.
Oui, vous arriviez à jouer au soccer. Que... OK, tu arrivais.
Oui, j'arrivais à jouer le soccer. j'arrivais à faire plein de choses, monter en vélo. Comme les activités propres d'un enfant.
Est-ce que, Camilo, votre mère vous parlait ouvertement de sa propre déficience visuelle? Est-ce qu'elle vous donnait des trucs ou vous n'aviez pas besoin parce que votre œil droit gauche vous permettait de bien voir?
Nous savions avec mon frère qu'il y avait une condition là. Mais, et honnêtement... c'est une chose drôle, mais ma mère, la discrimination par rapport à la cécité, c'était une chose remarquable partout, de façon que ma mère, elle avait une mauvaise expérience avec sa cécité.
Okay.
Elle a eu trop de discrimination. Donc, elle voyait les sujets comme une espèce de sujet tabou. Donc, on les savait, on les connaissait, mais on les disait jamais. On parlait jamais par rapport à ça.
OK.
Ça a changé un jour que, comme vous voyez, je parle beaucoup et j'ai fait trop de blagues des fois. Trop. Donc, on était en train de parler d'une des amies de ma mère. J'étais déjà à l'université. Et je parlais par rapport à une des amies de ma mère qui était un peu méchante des fois. Et j'oubliais ma politesse. J'ai dit, mais cette dame-là, elle croit qu'elle est l'aveugle la plus voyante de tout le monde. Ma mère a trouvé les commentaires drôles. Donc, elle a commencé à rire. Mon frère a commencé à rire. Et ça a changé beaucoup.
Ah ouais.
La perspective que nous avions sur la cécité, parce que ma mère, à ce moment-là, elle avait compris que même si on avait des conditions visuelles, ce n'était pas une problématique, c'était nous. Donc, on a commencé à faire une espèce de thérapie entre nous. Même quand j'ai perdu la vision, j'ai profité pour dire à ma mère, bon, il y a des choses qui sont en avantage. Une canne dans un aéroport, c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir. Parce que ça c'est une porte ouverte pour presque toutes les lignes. Donc, profitez-vous.
Puis est-ce que les enfants, parce que vous dites que les enfants sont quand même étaient ouverts, hein? Vous n'avez pas été victime d'intimidation, vous,
non,
en
oui,
Colombie?
Oui, parce que, bon, je suis un gros garçon, toujours, toute ma vie, je suis grand, ma taille, c'est comme 1m80 cm.
Okay.
Bien qu'on me connaisse, je suis gros. Et j'étais comme ça dès l'enfance. Donc, bullying avait un certain risque. Faire du bullying avec moi avait un certain risque.
L'intimidation, là. Vous avez
oui,
des
risques oui,
l'intimidation.
Ouais,
c'est ça que vous voulez dire, Camilo.
Mais pas pour la déficience visuelle. C'était même pas pour ça.
Oui,
ah, c'est un
c'était
tout.
C'était même pas pour ça.
Ah, c'est ça, okay.
Quand je dis ça, c'est parce que, évidemment, si à quelque moment quelqu'un voulait faire des blagues par rapport à la condition visuelle, bon, j'avais comment répondre. Et mes amis, ils ont été vraiment ouverts. J'ai eu des grands amis pendant toute l'école qui étaient toujours avec moi, qui jouaient avec moi, qui savaient comment interagir avec moi, de façon que j'ai jamais souffert une intimidation.
Puis toi, Camilo, est-ce que tu es allé à l'école régulière ou à l'école spécialisée?
Je suis allé à l'école régulière.
À l'école régulière, OK.
Je suis allé à l'école régulière parce que à ce moment-là, l'école spécialisée faisait une espèce de mélange entre les personnes ayant une condition physique et celles qui avaient une condition d'apprentissage.
Ah oh, oui, OK. C'était tout
façon,
handicap
oui.
confondu, c'est ça?
Oui, oui.
Okay.
Plutôt que confondu, c'est comme une espèce de mélange, une espèce
de chop suey.
Chop suey,
un handicap.
Toutes sortes de choses et voilà.
Chop suey d'handicap.
Ça donne faim.
Donc, oui.
Mais aussi, donc, Camilio vous disait que ça coûtait vraiment très cher aller au privé, là, aller dans une école particulière.
Oui.
Okay.
Oui,
l'école spécialisée qui était payante, c'est ça?
L'école spécialisée, c'était juste des écoles privées.
OK,
il y avait
c'est différent
pas
ici,
d'écoles, d'écoles publiques qui étaient spécialisées.
OK.
De façon que c'était la seule option. Ma mère, elle a essayé, mais quand elle a su qu'on serait mêlé avec des personnes ayant des conditions d'apprentissage, ma mère, elle a dit... Je ne veux pas que mes enfants soient ou apprennent plus lentement
oui.
juste en raison de la condition des autres. Et je ne veux pas exiger aux autres.
Oui.
De façon que je vais prendre le risque, les mettre dans une école régulière et on verra qu'est-ce qui arrive.
Elle avait peur que le rythme soit plus lent. Elle ne voulait pas, je comprends.
Oui.
Elle aimait mieux que ça soit plus difficile que trop que limité.
Oui.
Là. OK, OK.
Oui.
Puis dans l'école,
elle a compris toujours que, et je crois que ça c'est très important de savoir, l'inclusion, à notre avis, dans la vision que nous avons à la maison, l'inclusion, c'est pas une question de faire les choses plus simples, c'est juste d'adapter les choses pour qu'on puisse se développer de la même façon que les autres.
Mais oui.
Que les autres.
Mm-hmm.
Et ça va demander notre effort, évidemment, parce qu'on devrait faire, moi je devais faire un peu plus de travail en prenant des classes additionnelles pour quelques sujets comme des mathématiques, comme la géométrie et d'autres sujets. Mais de la même façon, l'apprentissage devrait se faire à la même vitesse les autres pour devenir compétitif.
Mais vous avez travaillé davantage.
Oui, j'ai dû travailler davantage. J'ai dû prendre des classes privées, je dirais. Donc, l'argent qu'on n'a pas dépensé dans les écoles, on l'a dépensé dans des professeurs privés
intéressant.
Pour renforcer surtout ce type de sujet qui se développe surtout de façon à l'écrit, dit-on, dans un tableau.
Plus visuel.
Oui. La géométrie, la mathématique, la chimie.
Puis, est-ce que Camilo, à l'école, il y avait des adaptations? Est-ce qu'il y avait, comme ici au Québec, il y a des professeurs, des enseignants conseils ou des professeurs itinérants, tu sais, qui vont donner des conseils aux enseignants pour dire comment adapter le matériel, par exemple? Puis, il y a aussi les spécialistes en réadaptation, là. Est-ce qu'il y avait l'équivalent? Comment les professeurs savaient faire les adaptations? Est-ce que c'était ta mère ou toi qui devais expliquer? Comment ça se passait?
Au début, l'Institut national des aveugles de Colombie.
Oui.
Qu'on appelle INSI.
Oui, oui.
Le INSI, ils avaient ce type de service.
OK.
Donc, il y avait des professionnels qui pourraient aider les enfants à l'école. C'était spécifiquement qu'ils allaient, ils donnaient des suggestions, ils facilitaient des adaptations, des matériaux adaptés pour faciliter l'intégration de l'enfant à l'école. Mais à l'école même, ce n'était pas comme ça. Le modèle, c'est un autre modèle. Il y a, par exemple, à l'école, au moins à mon époque, je ne sais pas si c'est mon zip, mais à mon époque, on n'a jamais eu deux professeurs en même temps dans la même classe.
OK.
C'était toujours une seule personne qui devait avoir une bataille avec les étudiants. C'était 20, 30 personnes dans la même classe.
OK.
Donc, c'était ça. Il n'y avait pas une personne, il n'y avait pas... Toutes les accommodations ont dû être orientées un peu par ma mère, un peu par les conditions même que les professeurs comprenaient comment l'adapter. Et moi-même, des fois, je devais dire comme il faut que je fasse une chose ou l'autre. Je me rappelle que quand j'étais une fois, j'étais dans l'examen final de mathématiques. Ça a été dans la secondaire. Et la professeure qui me connaissait déjà, elle savait que j'écrivais dans des feuilles très grandes, avec des caractères très grands, pas beaux, mais compréhensibles. Et j'ai fait tout l'examen et j'ai fini. Quand elle l'a regardé, et elle s'est trompée en regardant quelque chose. Donc, il m'a dit, c'est pas correct. Et j'ai dit, non. Je m'excuse, mais je vais vous expliquer. Parce que ce que je fais ici, je commençais à signaler la feuille. Donc, ici, ce que je fais, c'est ça. Ce que je fais, c'est ça. Bon, j'expliquais toute toute la marche. Mm-hmm. Et quand j'ai fini, elle rit et elle dit... Vous ne savez pas signaler une seule fois de façon correcte. Mais ce que vous disiez, je le vois là. Donc, je vais accepter ce que vous venez de me dire.
J'ai été, quand on a discuté ensemble, Camilo, vous parliez d'un travail. En fait, quand vous étiez avec c'est un stagiaire, un étudiant qui vous aidait, vous travailliez dans une fenêtre. Vous utilisez des marqueurs pour écrire grand format, mais dans une fenêtre.
Ça, c'est intéressant. J'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait ça.
Ouais, d'ailleurs, je parlais de toi, puis je parlais de la luminosité. Tu sais, l'hiver, tu dis, Bianca, tu as de la difficulté, mais Camilo travaillait dans une fenêtre, le soleil, tout ça. Comment vous faisiez ça, Camilo?
L'avantage que j'avais, c'est que, par contre, la luminosité à l'extérieur, me permettait de voir les caractères imprimés dans l'écran. Dans la fenêtre.
C'est comme une télévisionneuse. C'est intéressant parce
c'est comme une télévisionneuse.
C'est vraiment fascinant. Je vais peut-être expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Une télévisionneuse, en fait, c'est un, on appelle ça un système électro-optique. Dans le fond, là, en gros, c'est qu'on a une caméra. On a un document qu'on place sous la caméra et la caméra retransmet dans un écran le document, mais avec un... Si on veut, on peut modifier le contraste, la taille. Donc, ça fait qu'on peut avoir une feuille de papier, mais qui se retrouve très, très grande.
Grand format.
Grand format. Mm-hmm. Bien, le format de l'écran, puis on peut augmenter la taille. Puis là, on doit déplacer un plateau en dessous pour parcourir tout l'écran. Puis selon les... Parce que chaque personne qui a une déficience visuelle, c'est différent. Comme moi, par exemple, je suis très éblouie. Oui. Fait que ma télévisionneuse, je mets un fond noir. Mm-hmm. Mais Camilo, s'il était moins ébloui, il pouvait prendre un fond blanc avec des lettres noires. Puis c'est très contrastant. Fait que sa fenêtre faisait le contraste de façon naturelle. Moi, je trouve ça archi intéressant. Oui.
Et c'était vraiment agréable parce que quand on apprend à l'aide de ce type d'outils, donc vous devez être début, vous pouvez effacer, c'est toujours, par exemple, on voyait toujours le ciel, les couleurs du ciel, les jardins, tout ça. C'était vraiment agréable. C'était
une télévisionneuse naturelle, les ailes.
Oui, c'est une télévisionneuse naturelle. Oh! C'était fantastique.
Camilo, quand vous aviez environ 9 ou 10 ans, votre mère a demandé à ce que vous appreniez le braille et la dactylographie.
Le doigté, doigté pour l'ordinateur, j'imagine.
Oui. Honnêtement, pendant plusieurs années, je pensais que ma mère était fou. Folle. Donc, je l'ai pensé comme ça, mais... En fin de vie, on voit que ça a été une très bonne idée. Donc, quand nous étions enfants, je rappelle que ma mère, elle a commencé, elle savait qu'il y avait des choses à apprendre parce qu'elle disait, on ne sait pas, dans sa tête, je crois qu'elle elle a dit une, deux fois, pas beaucoup, mais elle a dit comme, si dans le futur, vous allez perdre votre vision, il faut que vous soyez capable de vous débrouiller.
Oui. Oui.
Donc, pendant les vacances d'été, pendant 2 ans, quand j'étais entre 9 ans et 10 ans, il a pris les vacances d'été pour nous enseigner. Une fois, c'était les brailles. Mm-hmm. Donc, tous les enfants étaient en train de jouer dehors et nous étions en train d'apprendre les brailles.
Ah oui. Puis elle parlait toujours pas beaucoup de la déficience visuelle, comme tu disais au début. Fait que c'était sans explication, il faut apprendre ça. Ça devait être une bonne ambiance.
c'était pas l'ambiance la plus agréable, mais la décision était vraiment, vraiment sage. Parce que, bon, quand on a pris les brailles, ça nous a donné, de quelque façon, ça nous a donné la curiosité de la lecture. Et même si on ne l'a pas pratiqué beaucoup, ça crée toute une ambiance par rapport à la lecture.
Ça a été utile. Ça a été utile pour vous, Camilo.
Oui.
Et
oui,
d'ailleurs, Camilo, on doit prendre une courte pause maintenant. Mais après la pause, on va pouvoir continuer avec comment le braille a aidé et aussi les études supérieures. On se retrouve tout de suite.
Vous écoutez Y voir clair avec Bianca Luchier-Dalpé et Nathalie Barrette.
Alors, on revient avec Camilo Andrés Santana qui nous parle de son histoire, de son parcours en Colombie avec la déficience visuelle. Puis, Camilo, juste avant de partir pour la pause, tu nous expliquais que, bon, vers l'âge de 9-10 ans, il y a eu des cours de braille avec ta mère et ton frère durant les vacances d'été et que ça t'a beaucoup aidé par la suite dans tes études.
Je veux juste faire une parenthèse. C'est important de dire quand même qu'il y avait une vision à ce moment-là.
Oui.
Parce que apprendre le braille, quand on a une cécité complète, j'imagine que ça fait un peu... Tu sais, c'est comme... On s'attend à ça, j'imagine. Ça. Mais Camilo, il voyait bien, là.
Je crois qu'il faudrait mentionner que ça dépend... Chaque personne a ses propres stratégies pour apprendre les brailles.
Oui. Mm-hmm.
Et, par exemple, de mon côté... La façon avec laquelle j'ai appris, c'est que dans ma tête, chaque fois que je touchais en caractère. Dans ma tête, ça me revenait la lettre comme je la voyais.
En imprimé?
Donc, oui, comme je la voyais à l'imprimé.
Okay. Oh, c'était
donc,
intéressant, moi,
c'était
ça,
la façon que j'utilisais pour associer au début toutes les lettres en braille.
Donc, il voyait
visuellement, mais pas les points. Oui. Par exemple, un A en braille, c'est le point 1. Toi, oui. Camilo, tu visualisais le A comme avec une police à l'ordinateur. Fait que c'est comme si tu lisais dans ta tête visuellement en lisant du braille tactilement.
Wow.
Oui. Oh, ça, c'est intéressant.
la signal tactile me disait c'est quoi que je devrais voir dans ma tête.
Ça serait intéressant de faire un IRM fonctionnel de ce qui se passait dans ton cerveau à ce moment-là.
Donc, c'était la façon que je trouvais. Et moi, donc, ça m'a permis à prendre les brailles et ça m'a exigé, par exemple, un peu plus d'efforts, être un peu plus créatif. Quand j'ai perdu ma vision, je dois prendre les brailles en français, qu'il y a des caractères qu'on n'utilise pas en espagnol. Bon, il fallait faire de une espèce d'IA pour créer mes propres images
mentales.
Comment ça se pourrait voir, comment se pourrait voir l'image mentale de chaque caractère.
Parce que c'est encore comme toi. Quand tu lis du braille, tu l'imagines visuellement.
Oui, oui. Ah. Par exemple, je vois une mot. Et dans ma tête, je vois premier. Donc, je vois les lettres premières, comment elles devraient se voir pendant que je les touche.
OK. Puis là, je suis curieuse. Je t'écoute, puis je me dis, tu utilises l'audio aussi, la revue d'écran Jazz ou sur l'ordinateur, puis VoiceOver. Comment ça se passe quand tu écoutes un texte? Est-ce que comment ça se passe dans ton cerveau, là?
finalement, quand j'entends un texte, c'est un peu plus vite.
Mm-hmm.
C'est vrai que je crois que je vois quelques mots. Je pense pas que tout en même temps, parce que j'entends le Joss très vite.
Mm-hmm.
Mais quand même, je vois quelques mots qui me permettent comme suivre la... C'est comme pour les voyants, ça s'appelle un peu comme lecture en mode zigzag.
Mm-hmm. Lire en diagonale, on dit ça souvent.
Oui, lire en diagonale.
Ouais.
Donc, il y a des mots stratégiques que je vois dans ma tête, que je comprends. Et c'est comme ça que, dans la lecture, j'arrive à comprendre.
Mm-hmm. Fait que c'est différent, la façon comme mode.
Camilo, après l'école, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, on appelle probablement pas ça le secondaire, primaire, secondaire, mais vous avez fait un parcours universitaire assez impressionnant. Baccalauréat, maîtrise, et qu'est-ce qui vous poussait à aller toujours plus loin? Là, vous aviez toujours encore la vue.
Oui.
OK.
Quand j'étais toujours encore à l'école,
mm-hmm.
ma mère, elle a fait un master.
Mm-hmm. OK.
Et j'ai vu comment elle faisait, elle venait, elle a fait toutes ses études de maîtrise.
Elle ne voyait pas du tout.
Elle ne voyait pas tout. Et je savais déjà qu'elle avait fait deux bacs. Et non juste un, mais deux bacs.
Mm-hmm.
Donc, elle était déjà très compétitive.
Mm-hmm.
De façon qu'à la maison, de façon pas explicite, pas l'autre chose,
mm-hmm.
implicite, je crois,
mm-hmm.
on savait qu'on devrait avoir, arriver à obtenir de réussites académiques.
Je comprends. C'était comme mm-hmm. un modèle, sans avoir besoin de le dire,
oui.
ça le démontrait.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui, oui. Ouais.
Que la réussite académique aiderait, c'est ça?
Oui, exactement. Et surtout qu'on est convaincu, comme je viens d'une famille d'éducateurs, des enseignantes, chez nous, on comprend que l'éducation, c'est critique, c'est clé pour le développement de personnes.
Okay.
Je crois que c'est pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont une condition d'handicap, l'éducation permet de franchir des barrières. Et c'est juste ça, la façon d'obtenir un bon niveau de vie.
Mmh.
Parce que je m'excuse pour la façon comme je parle, mais être dans une condition de faiblesse économique, mm-hmm. sans avoir au moins un élément d'éducation qui peut vous permettre de sortir de ça, ou ça va créer plus de problèmes.
Puis peut-être, si tu me permets, Camilo, je pourrais donner un tout petit exemple. Tu sais, je pense à quelqu'un, par exemple, qui a peut-être moins d'instruction, mais qui a une bonne vision ou qui n'a pas de handicap. Oui. Il peut dire, je vais me trouver un petit emploi pour rapidement améliorer ma situation, tu sais, dans un commerce, dans un dépanneur. Oui. Mais quand on a une déficience visuelle, c'est difficile, les emplois d'entrée, les emplois étudiants. Ce qui est plus facile pour nous, c'est d'avoir des emplois où c'est un peu plus avec notre tête puis un peu moins avec nos yeux puis nos mains. Fait que l'éducation, t'es pas le seul à le dire ici au micro, c'est archi important quand on a une déficience visuelle.
Oui. Ouais. Et c'est faisable, mais c'est un défi additionnel qu'on a en plus de la condition visuelle.
Mais je suis curieuse, Camilo, à l'université, les accommodements varient, j'imagine, beaucoup. Selon les enseignants ou...
Est-ce qu'il y avait un service... tu sais, moi, je compare souvent avec le Québec, le Canada, pour apprendre. Tu sais, ici, on a un service pour les étudiants en situation de handicap. Est-ce qu'il y avait ça en Colombie?
Honnêtement, s'il y a, j'ai jamais lu.
Ça, on n'a pas bénéficié.
Oui, okay. Je ne vais pas bénéficier de ça.
OK.
Est-ce que c'était selon les enseignants, c'est ça?
C'est selon les enseignants.
OK, négocier à chaque
cours. Par exemple, l'université, oui. Oh. À l'université, quand j'ai fait mon bac, à l'université, il y avait une salle qu'on appelait la salle pour personnes malvoyantes.
Mm-hmm. OK, il y avait ça quand même. OK.
Mais cette salle, c'était juste un monsieur très gentil. Qui pouvait nous aider avec la télévisionneuse, qui pouvait nous aider avec Joss, qui pouvait faire des matériaux.
Ouais.
Mais ce n'était pas une personne qui va parler avec les enseignants, qui va dire, monsieur le professeur, il faut faire des accommodations. Pas comme ça.
Ah, OK. Donc, il y avait du matériel adapté, mais il n'y avait pas de sensibilisation. Et pas d'équité pour le temps supplémentaire aux examens, là, par exemple.
Oui. Je sais qu'après, l'université a commencé à développer ce type de service. Mais au moment que j'étais là, c'était pas disponible. De façon que je devais parler avec chacune des professeurs, exprimer ma condition, expliquer ma condition et arriver à quelques accords, pour passer les examens, pour présenter le travail, des choses comme ça.
OK.
Donc, là, les soutiens de collègues, des étudiants, c'était une chose clé.
OK.
J'avais, par exemple, j'ai eu des étudiants qui étaient avec moi, des grands amis, je dirais, que, par exemple, ils ont compris comment j'apprenais les mathématiques. Donc, si j'étais à l'université et je ne pouvais pas obtenir le soutien de mon enseignant à la maison, soit pour la disponibilité ou n'importe quelle chose, mes amis, par exemple, prenaient le temps de travailler avec moi, à l'écrit, avec de grands caractères qu'il faisait en main. Donc, c'était un peu comme ça. Okay. Ou pour la lecture, par exemple, j'avais des collègues qui... L'université, c'est une université ouverte dans laquelle il y avait des petits... On l'appelle forêt, mais c'est des très petites concentrations d'arbres.
Okay.
Donc, on pouvait s'asseoir. Donc, on allait là... Et c'était eux qui lisaient pour moi.
OK. Mm-hmm.
Donc, ce type de choses, c'est toujours la solidarité. Je crois que la solidarité humaine, c'est la chose la plus belle du monde.
Mais je t'écoute.
J'ai eu toujours un très, très grand groupe de personnes qui étaient solidaires avec moi.
Mais c'est ça, je t'écoute, Camilo. Puis tu sais, t'es quelqu'un de très sympathique, puis tout ça. Puis est-ce que, à certains moments, tu disais, mais moi, il faut que je sois sympathique parce que j'ai toujours besoin des autres. Est-ce que tu as l'impression que si tu avais été une personne, je pose deux, trois questions, mais ça me fait réfléchir beaucoup, est-ce que tu penses que si tu avais été une personne un peu moins sympathique, ça aurait été plus difficile pour toi, le parcours aux études, si tu avais eu moins de facilité à te faire des amis, par exemple?
Ça, c'est sûr. Honnêtement, ça, c'est sûr. Mais moi, j'aime être sympathique. Mm-hmm. C'est une chose qui vient avec moi. Mais c'est clair que si on n'est pas sympa avec les autres, le niveau d'orientation pour le soutien, c'est moins élevé.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, ça baisse rapidement. Ça baisse rapidement. Donc, toujours, et c'est pas, il faut gagner la confiance. C'est comme la sympathie, mais la sympathie originale, la sympathie.
Sincère? Non?
Sincère. Mm-hmm. La sympathie sincère. Parce que ça, on se rend compte quand une personne, c'est juste un peu.
Emprunté.
Oui. Oui, emprunté. Donc ça marche pas, mais c'est une outil de personnalité qui m'a aidé beaucoup.
Le temps passe vite, Camilo. Je veux qu'on parle parce que vous avez un jour complètement perdu la vue. J'imagine que le travail, le stress, qu'est-ce qui a causé cette perte de vue là?
C'est surtout le travail.
Parce que vous avez eu un très bon emploi là, comme directeur de projet après vos études universitaires. Vous avez eu la chance de voyager, vous vous êtes promené dans le monde, mais ça devait amener un stress et beaucoup de travail.
Oui, j'avais ma semaine de travail, c'était une chose comme je devais travailler à l'université lundi, mardi, mercredi, je devais me rendre à l'aéroport pour faire n'importe quelle activité, voyager. J'étais hors presque jusqu'à samedi, des fois dimanche. Donc, j'ai retourné à Bogota en dimanche pour commencer à travailler une autre fois lundi. Okay. Donc, ça est devenu fou parce que mon temps à l'écran, ça a augmenté d'une façon fulgurante.
Puis à ce moment-là, tu travaillais avec Zoom Text, avec un outil de grossissement?
Avec Zoom Text.
Oui, OK.
Avec Zoom Text.
OK.
Mais bien qu'on peut se rappeler qu'à l'époque, Zoom Text avait une espèce de lag. Mm-hmm. Je ne sais pas comment ça se dit en français.
Un ralentissement, un délai.
Ralentissement, un délai, oui. Un délai qui exigeait beaucoup plus d'efforts de côté des cieux. C'était fatigant. Et ça commençait pour affaiblir ma vision. Mm-hmm. Donc, je commençais à voir comme des nuages entre les personnes et moi. Et je suis allé à le spécialiste et le spécialiste m'avait donné un médicament que je l'ai trouvé fantastique. Ça s'appelait Betoptic. Mm-hmm. C'est le mot que je me rappelle de nom. Et c'était un médicament pour les glaucomes, pour prévenir les glaucomes, mais pour les enfants. De façon que c'était les effets secondaires, c'était moins fort. Et comme mon œil c'est petit, donc, j'avais besoin de médicaments moins forts, plus adaptés.
Puis vous avez pris ce médicament-là pendant plusieurs années?
Oui, je l'ai pris pendant plusieurs années et c'était fantastique. Je me rappelle que si j'avais une nuage dans ma vision, j'ai juste dû me mettre une de... m'appliquer un ou deux...
Des gouttes?
Oui, des gouttes. Et voilà! Moins de 5-10 minutes après, la vision avait retourné dans toute sa capacité.
Okay. Mais
c'était fantastique.
Mais qu'est-il arrivé avec ce médicament-là? Vous l'avez pris longtemps?
Je l'ai pris pendant 4, 5 ans. Mm-hmm. Une chose pareille.
Au travail. À ce moment-là, c'était le travail.
Oui.
Toi, tu étais malvoyant.
Oui.
Le médicament aidait.
Mais quand même, les médicaments aidaient, donc tout ça se passait bien. J'étais contrôlé. Et bon, un bon jour, je me réveille, je dois acheter les médicaments. il n'est pas disponible. Je commence à regarder. Comme je voyageais et j'avais toute une équipe qui voyageait par toute la Colombie, je suis allé à la pharmacie. Ils ont fait la recherche. Ils ont appelé la compagnie pharmaceutique. Et la réponse de la compagnie pharmaceutique, c'est les médicaments. On a retiré les médicaments. On ne va pas produire les médicaments non plus. Donc, je me rappelle que je suis allé dans une des grandes chaînes de pharmacie en Colombie. Et ils sont regardés dans tous les produits qu'ils avaient. Et sa réponse était, nous avons trois petites bouteilles qui sont spécifiquement deux en Medellin et une à Barranquilla.
OK. Là, là. Il restait trois bouteilles en Colombie.
Trois bouteilles,
c'est tout.
Oui, j'étais en Bogota. Mais heureusement, cette fin de semaine, j'avais des collègues de mon équipe qui se promenaient par tous les pays. Donc, j'ai demandé à ceux qui allaient en Medellin et à Barranquilla d'acheter les médicaments. De façon que j'ai eu la chance d'avoir les trois dernières bouteilles.
C'est la Colombie. Quand même pas beaucoup, trois bouteilles.
Trois bouteilles, c'était pas beaucoup, mais ça m'a duré pour quelques mois de plus. Et une fois que ça finit, j'ai dû aller au médecin, j'ai dû changer les médicaments. Et bon, tout est arrivé. Ça commençait à être de pire en pire parce que les effets secondaires de médicaments pour les glaucomes dans des adultes sont une chose catastrophique. Je crois que c'est une des pires effets secondaires que nous avons à ce moment-ci.
Camilo, parce que bon, c'est pas facile justement de prendre des produits, des médicaments comme ça, perdre la vue totalement avec les années. Moi, je suis curieuse par rapport à l'accessibilité. Comment on vit en Colombie? En fait, pour une personne aveugle ou malvoyante, ça ressemble à quoi des déplacements dans Bogota? Surtout Bogota, parce que vous étiez là. Ça ressemble à quoi?
J'aime ma ville.
Oui.
J'irai pour Noël. J'aime ma ville, j'aime ma gens, mes gens. Mais j'aime pas les déplacements, les trottoirs. Oh mon Dieu. C'est une affaire horrible. Pourquoi? Parce que en tant que grande ville, c'est très facile dans une grande ville qui jamais a de la neige, qui n'a jamais on était comme celui-ci avec 31 degrés, 43 d'humidité. Donc nous avons un climat très agréable qui permet à la population de faire les commerces même à la rue. Donc, c'est très facile de trouver des commerçants qui se trouvent dans la rue, qui offrent ces produits, qui utilisent en partie des trottoirs pour laisser ces produits.
La voie est
généralement
libre.
Des produits à bas prix, généralement des commerçants qui sont dans l'informalité. Donc, c'est marcher dans ce contexte qu'il y a des commerçants, qu'il y a des gens.
Les gens s'arrêtent partout dans les commerces.
Les gens s'arrêtent partout.
Est-ce que tu devais être accompagné ou c'était possible de se déplacer seul ou c'était carrément impossible?
J'ai regardé des gens qui sont capables de le faire. Moi, non.
OK.
Moi, je suis un inutile. Je peux pas.
OK.
Mais j'ai regardé des cas exceptionnels que étaient bien adaptés à la mobilité. Tout le processus de formation en mobilité, je l'ai eu ici au Québec. J'ai jamais eu. Quand j'étais déclaré aveugle, officiellement aveugle en Colombie, il m'a envoyé vers les services de santé et et spécifiquement pour les services de réhabilitation, depuis que j'ai posé la demande, j'étais toujours dans une liste d'attente.
Mais, OK, mais il y avait
une liste d'attente. Oui. Oui, il y avait une liste d'attente, mais je crois que c'est plus grand que celle pour arriver au paradis de catholiques.
C'est toujours sur la liste d'attente.
C'est long.
Mais Camilo, aussi, il y a la... En fait, là-bas, vous ne pouvez pas prendre votre voiture à toute heure du jour, toute heure, n'importe quand. Chaque personne a une journée précise pour conduire. Mais oui. vous les
numéros pairs, par numéros exemple, pairs, lundi, c'est ça. Ah, ouais. C'est comme ça, Mexico aussi, ouais.
Oui.
OK.
Oui.
Donc, vous avez ça, mais vous, vous aviez l'avantage de pouvoir utiliser la voiture à tous les jours.
Vous conduisiez à chaque jour, oui. Camilo.
Non. J'aurais aimé, bien comme c'était pas moi.
C'est une blague.
Oui, je sais. Donc, comme j'avais un emploi bien rémunéré, j'ai eu la chance d'avoir ma voiture, mon chauffeur. À moi.
Oui, ça c'est intéressant.
Pour me déplacer.
OK.
Donc, ça m'a donné une mobilité que presque personne n'avait. Donc, mon chauffeur, oui, c'était aussi la personne qui m'accompagnait d'un endroit à l'autre. C'était une personne qui m'a aidé beaucoup. Et c'était. Ça a été la première des choses que j'ai eues.
Toi, tu pouvais embaucher quelqu'un.
Par rapport aux autres.
Tu avais ton transport adapté privé à tous les moments.
Oui, wow. Oui, exactement.
Mais les Colombiens qui n'avaient pas de chauffeur.
Les Colombiens qui n'ont pas de chauffeur. Mm-hmm. Donc, le système reconnaît, la loi reconnaît que les personnes ayant une condition d'handicap peuvent avoir des avantages sur soit les transports en commun, dans lesquels ils peuvent avoir une réduction tarifaire. Ils donnent un certain nombre de voyages par mois, mm-hmm, de façon gratuite.
Okay.
Si la personne a la chance, comme moi, d'avoir une voiture ou des choses comme... une voiture spécifiquement. Bon, en Colombie, à la plupart des grandes villes en Colombie, nous avons des restrictions de trafic. Donc, les voitures sont restreintes de sortir pendant quelques nombres d'heures des heures ou pendant la journée, selon l'immatriculation. Donc, les personnes qui ont une condition d'handicap peuvent demander aux autorités d'avoir une exemption pour, pour se déplacer, mm-hmm, dans la voiture. Moi, je l'ai eu. Donc, je pouvais utiliser ma voiture en tout moment. La règle, c'était que soit moi, soit ma mère, soit mon frère devait être dans la voiture avec le chauffeur.
Okay.
Le chauffeur, lui, il seul, il ne pouvait pas se promener.
Ouais, c'était pas pour lui.
Il devait être, parce que c'est pas pour lui. Il devait être toujours avec nous.
OK. J'étais curieuse, Camilo, parce que on mentionnait plutôt que dans ton travail, tu t'es beaucoup déplacé en Amérique du Sud. As-tu constaté dans d'autres pays, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, as-tu pu constater un petit peu comment ça se passait là-bas?
Oui. C'est aussi fou. L'Amérique latine, c'est chaotique. C'est un endroit chaleureux. Et j'ai eu de belles expériences. Par exemple, en Argentine, je me rappelle que les gens, en général, c'était vraiment gentils. Mm. Les gens au Pérou, c'est la même chose. Ils sont vraiment gentils. Mais le trafic, c'est quand même chaotique. Mm-hmm. Aussi à Pérou, à Lima, spécifiquement à Lima. Au Bayandon, le trafic à Lima, c'est fou. À la ville de Mexique,
ça doit être complètement fou.
Oui, non, c'est fou.
Camilo, on achève, il nous reste à peine 2 minutes. Vous avez décidé il y a 4 ans de venir au Québec. Pour quelle raison le Québec?
Je crois que le Québec offre beaucoup d'avantages, mm-hmm, par rapport aux personnes handicapées. Mm-hmm. Et il y a il y a des défis toujours. Ce n'est pas un système qui soit parfait, mais c'est un système accueillant. Mm-hmm. C'est moi, mon expérience avec l'INLB, avec des organismes en général, même à l'INCA où je travaille maintenant, c'est un service toujours chaleureux, toujours bienveillant. Et ça, c'est une chose qui est difficile à trouver. Mm-hmm. La disponibilité des services sociaux dans les milieux communautaires, c'est beaucoup plus grand qu'en Amérique latine.
J'aimerais...
De façon que, pour une personne comme moi, rester toujours dans un ambiance dans lequel la collaboration, la solidarité sont essentielles, bon, ça devient un atout.
Mm-hmm. J'aimerais quand même dire, on termine, Camilo, j'aimerais dire, c'est plate, ça se termine très vite, mais vous êtes arrivé à un moment où le Québec avait des politiques d'immigration qui vous semblaient plus accueillantes qu'actuellement.
Oui.
On se croise les doigts pour qu'un jour, les gens comme vous, qui ont des formations comme les vôtres, puissent être bien accueillis ici au Québec et qu'on leur offre des beaux emplois à la mesure de vos études et des capacités que vous avez à offrir ce que vous avez à offrir au Québec. Camilo, merci infiniment d'avoir partagé votre histoire avec autant de générosité puis de sincérité. Votre parcours nous rappelle que l'autonomie se construit souvent avec beaucoup de détermination, mais aussi grâce aux personnes qui choisissent de croire en nous et de nous donner les bons outils.
Oui, puis tu sais, ce qu'on remarque, c'est que c'était peut-être un pays où il y avait beaucoup d'adversité, dans le sens les déplacements sont difficiles, il y avait peu de ressources, mais en étant sympathique et bien entouré, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles, puis c'est ce que tu vas continuer ici. Je suis certaine.
Hey, merci beaucoup. Alors, merci Bianca, ton expertise, toutes les nuances que tu apportes à nos échanges. Un grand merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Je suis Nathalie Barrette.
Et je suis Bianca Lucier. Un plaisir de découvrir la déficience visuelle autour du monde.